France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 11 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'optimisme prudent du gouvernement. Nous touchons au but et c'est une bonne nouvelle, affirme le Premier ministre qui détaille secteur par secteur les protocoles qui vont accompagner la prochaine étape du déconfinement. L'ensemble de ces informations et détails après les autres titres, Agnès.
20 morts à Gaza, barrage de roquettes sur Israël, 500 blessés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et un conseil de sécurité de l'ONU qui reste silencieux. Verdict attendu ce soir au procès de Nordal-Lelandais à Chambéry et un dictionnaire un peu particulier pour comprendre ce que dit votre ado.
C'est toujours utile. Les invités de France Inter et rendez-vous à 7h50, Léa.
Oui, tous les syndicats de police attendent un durcissement de la réponse pénale après la mort du brigadier Éric Masson dans le Vaucluse la semaine dernière. Leur donnera-t-il satisfaction? Le ministre de la Justice, qui est aussi depuis ce week-end candidat au régional dans les Hauts-de-France, Éric Dupond-Moretti, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale. Déconfinement suite avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Et puis sachez aussi que France Inter célèbre Bob Marley toute la journée à l'occasion des 40 ans de sa mort. Deux rendez-vous à suivre, le Zoom à 7h15, reportage en Jamaïque et le mur du son à 7h23.
France Inter. Nous sommes enfin en train de sortir de cette crise sanitaire. Ce sont les mots du Premier ministre qui détaille ce matin les modalités de l'étape 2 du déconfinement. Dans 8 jours, donc le 19 mai, nous pourrons boire un verre en terrasse, aller au ciné et retourner au stade. Jean Castex affiche son optimisme dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, assurant le service après-vente des engagements pris par le président de la République, Simon Le Baron.
Il y a un an, Emmanuel Macron prédisait le retour des jours heureux. Cette fois, c'est Jean Castex qui nous promet le bout du tunnel. Nous touchons au but et c'est une bonne nouvelle, assure le Premier ministre, dans une sortie qui tranche avec la prudence constamment affichée par Matignon face au volontarisme en vogue à l'Élysée. Le Conseil scientifique vient de le mettre en garde contre une réouverture précipitée, en décalage avec le niveau de vaccination de la population. Mais Jean Castex assume, il prend son risque, dirait le président. Quand on ne va pas trop vite, on nous dit qu'on va trop lentement. Et réciproquement, répond le chef du gouvernement. L'ex-monsieur déconfinement n'a pourtant pas oublié le relâchement de l'été dernier et les 80 000 morts supplémentaires déplorés depuis, mais il met en avant la possibilité de reconfiner certains territoires, même après la fin de l'état d'urgence sanitaire début juin. Et surtout, le Premier ministre veut montrer qu'il ne laisse rien au hasard, avec un calendrier très, très détaillé, pour les bars, les restaurants, les cinémas bien sûr, mais aussi pour les camps scouts, les bowlings ou les petits trains touristiques.
Très précis, effectivement. 8 mètres carrés par client dans les magasins. Pour les mariages, un emplacement sur 3 en quinconce. 35% de spectateurs dans les stades avec un plafond à 1000 personnes. Et pour les terrasses, donc une jauge à 50% et des tables de 6 personnes max. Alors à ce rythme, Thibault Lefèvre, le carnet de réservation est vite rempli.
Depuis les dernières annonces du président de la République, le téléphone d'Emmy Martin du restaurant Le Moulin du Pont à Lille, en Dordogne, n'arrête pas de sonner.
Certains clients, ironiquement, nous ont dit « ça fait 2 ans qu'on n'a pas usé les combinaisons de ski, s'il faut les mettre pour manger dehors, on les mettra, il n'y a pas de problème ».
La terrasse du restaurant peut accueillir jusqu'à 60 clients, mais pour le moment, Emmy a préféré limiter le nombre de réservations à une trentaine de couverts.
On préfère dire non aux gens de nous rappeler d'ici une semaine et demie, que de devoir les rappeler et de leur dire qu'on peut pas vous prendre.
Et il y aura beaucoup de frustrés qui ne trouveront donc pas de table en terrasse le jour J. Damien Rodière dirige la plateforme de réservation The Fork, anciennement La Fourchette, et il constate depuis quelques jours une explosion du volume de réservations.
On a les réservations qui ont été multipliées par 10 et c'est une tendance que par le passé on n'a jamais vue. Donc il y a une vraie attente et les gens ils ont vraiment envie d'être les premiers à pouvoir manger un bon plat dans leur restaurant préféré en terrasse.
La demande augmente donc bien plus vite que l'offre. Selon l'Union des métiers de l'industrie et de la restauration, seulement un quart des 200 000 établissements en France sont concernés par la réouverture du 19 mai. Tous les autres n'ont tout simplement pas de terrasse à proposer à leurs clients.
Et justement pour les sans terrasse, rendez-vous le 9 juin pour la réouverture des salles à l'intérieur avec une jauge à 50%. Quant à la levée totale du couvre-feu, l'objectif est toujours le 30 juin en fonction de l'évolution de la situation qui continue de s'améliorer avec moins de 4900 malades en réanimation. Et se pose désormais officiellement la question d'un pass sanitaire. Les députés ont donné hier un premier feu vert lors des discussions parfois houleuses sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Un pass sanitaire, vaccin ou test, qui pourrait être exigé pour les parcs d'attractions à partir du 9 juin. Dans ces conditions, le Futuroscope près de Poitiers ne pourrait pas rouvrir, estime son directeur général, Rodolphe Boin.
Pour moi, c'est un non-sens pour le parc du Futuroscope. On a beaucoup d'espace. On a 30 hectares. Pour même 10 000 personnes, c'est 50 mètres carrés par personne. On ne demande pas un pass sanitaire en entrée de centre de ville, et heureusement. Sinon, ça ne sert à rien de parler de déconfinement. Je ne crois pas que ça serait applicable parce que ça serait contraignant. Et puis d'ailleurs, ce serait discriminatoire parce que, en fait, les jeunes générations qui viennent nous visiter n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner. Et donc, ce serait quelque chose qui serait parfaitement inapplicable et qui aurait évidemment des incidences économiques en termes d'attractivité très importantes et qui ferait que potentiellement, on retarderait notre ouverture.
Enfin, côté festival, on découvre ce matin la programmation des Francofolies de La Rochelle avec Benjamin Biolay, Jane Birkin, Raphaël, Pomme, Iseult ou Grand Corps Malade et le retour de Francis Cabrel. Les Franco du 10 au 14 juillet prochain.
Il est 7h06, Agnès. Un calme précaire ce matin au Proche-Orient.
Après une journée comme la région n'en avait pas connue depuis 7 ans, au moins 20 personnes sont mortes, dont 9 enfants et un haut commandant du Hamas, dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. En riposte à des dizaines de roquettes tirées vers Israël depuis l'enclave palestinienne. Israël, de son côté, dit avoir tué 15 militants. Dans la journée également, des affrontements sur l'esplanade des mosquées avaient fait plus de 500 blessés. Reportage dans les rues de Jérusalem de Frédéric Mettezo.
Côté ouest, les slogans des juifs. Le peuple d'Israël est vivant. Côté est, ceux des Palestiniens. Jérusalem est arabe. La police évite les frictions entre les deux communautés quand retentit un son presque oublié. 7 ans que l'alerte rouge aux missiles n'avait pas retenti à Jérusalem. Le bouclier antimissile entre en action. Dans la partie arabe de la ville, une explosion de joie. Pour Marwan, le Hamas a bien fait de tirer.
C'est mon pays. Je veux me battre pour que mon pays soit libre. C'est pas le pays des Juifs, c'est la Palestine. Les Juifs prennent mon sang. Pour un pays libre, je donne mon sang. J'ai pas peur de mourir, je n'ai peur que de Dieu.
Cholem, un jeune juif qui flâne avec ses copains à la nuit tombée, roule aussi des mécaniques.
L'armée doit bien attaquer Gaza. On continuera à venir à Jérusalem, comme on veut, car cette ville est à nous.
Vous avez eu peur ou pas ?
Non, je n'ai pas eu peur, car le bouclier antimissile est très très bon.
Entre les deux jeunes gens, quelques centaines de mètres, mais un véritable gouffre. Entre les deux, la vieille ville théâtre de nouvelles violences cette nuit. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier soir, pas de déclaration officielle à la demande des États-Unis qui disent travailler en coulisses pour tenter d'apaiser la situation. Retour en France avec l'hommage national aujourd'hui à Éric Masson, policier tué en service mercredi dernier à Avignon. Le tireur présumé en garde à vue depuis 24 heures nie toute participation. Le Premier ministre a annoncé hier soir un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers et de gendarmes. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Et c'est l'heure du verdict au procès de Nandal Lelandais devant la cour d'assises à Chambéry. Les jurés devront déterminer si l'accusé a volontairement tué le caporal Arthur Noyer ou si, comme le répète Arthur Nandal Lelandais, il s'agit d'une bagarre qui a mal tourné. Jean-Philippe Deniaux.
Une fois encore hier soir, l'accusé a répété « ce que je vous ai expliqué, c'est ce qu'il s'est passé ». Phrase sibylline qui tranche avec les longues explications des experts psychiatres hier autour de la notion d'effondrement narcissique. Si Lelandais devait avouer le meurtre, c'est-à-dire l'intention de tuer, alors ce serait le chaos, détaille le docteur Danet. Donc il se protège, il ne va pas trop loin pour ne pas aller trop mal, car il n'a pas les ressources psychologiques pour affronter la réalité d'un meurtre. Pour le psychiatre, le passage à l'acte de Lelandais peut s'expliquer par un désir de sensation forte, jamais suffisamment assouvi. Mais il n'a pas les ressources pour accepter les conséquences de tels actes. Et leur révélation aujourd'hui serait donc de l'ordre de l'effondrement. Elle le conduirait au suicide. Lelandais s'en tient donc à sa ligne de défense comme une ligne de survie, peu importe si elle ne tient pas face aux évidences du dossier criminel, tant qu'il n'y a pas de preuves formel pour le confondre, il s'accroche. Lelandais pourra-t-il un jour évoluer ? Une perspective thérapeutique sera sinon illusoire, du moins compliquée, concluent les experts pessimistes.
Verdict donc dans la soirée. Et dans le journal de 8h, nous reviendrons sur la mort hier du tueur en série Michel Fourniret. Aider les familles en difficulté à acheter des produits de qualité, c'était la promesse du chèque alimentaire faite par le chef de l'État en décembre dernier. Depuis, le dossier est passé entre les mains de plusieurs ministères, sans résultat pour le moment, Hélène Philly.
Le travail n'est toujours pas finalisé. 4 mois après la promesse, alors que les députés ont encore insisté sur l'urgence de la mise en place du dispositif pendant l'examen du projet de loi climat, ce chèque alimentaire semble bien difficile à concrétiser. 8 millions de personnes sont en inégalité nutritionnelle. Le ministre de l'Agriculture l'a rappelé il y a 2 semaines, Julien de Normandie, qui défend un déploiement de l'aide par étapes, en commençant par les jeunes, 18-25 ans, 1 million de personnes environ. L'idée serait de leur donner une enveloppe de 50 euros pour qu'ils puissent acheter des produits bio ou au moins locaux en circuit court, tout en assurant une bonne rétribution des agriculteurs. À Bercy, en début d'année, on a commencé par invoquer la complexité du système. Quels produits seraient éligibles? Quel réseau de distribution utiliser entre les grandes surfaces, les marchés, les AMAP? Le ministère de l'Économie a finalement suggéré de confier la gestion de ces chèques aux centres communaux d'action sociale. Des propositions qui ont maintenant été transmises depuis longtemps, sans que rien ne soit encore arbitré.
Enfin, dictionnaire peut-on cacher un autre? L'édition 2022 du Petit Robert vient de paraître avec Covid au masculin et sans majuscule et ses corollaires distanciels, cas contact et saturomètre. Et un autre dictionnaire se prépare dans l'Essonne, celui des mots du 91. Dans le cadre de la préparation du grand oral du bac, des élèves du lycée professionnel Mendès France de Ris-Orangis planchent avec un linguiste pour faire découvrir leur parler et ça ne manque pas de sel. C'est un reportage de Faustine Calmel.
Si vous entrez dans la classe, pas sûr que vous compreniez tout.
Donc vous utilisez kishta, ça veut dire l'argent. Donnez-moi une phrase, un exemple.
Wesh mon gars, t'es mal à la taille de la kishta.
Kishta, comme wo pour moche, bye pour truc, piqué pour amoureux, seront au menu de ce dictionnaire des mots qui provoquaient des quiproquos.
Ils utilisent des mots qu'on ne comprend pas.
Suzanne Bas, enseignante.
Donc ça donne des malentendus où on s'agace un petit peu, on s'énerve, on les reprend. Et puis finalement, on s'est dit qu'il fallait faire d'une force cette petite faiblesse qu'on avait constatée au niveau du langage.
Depuis, Julien Barré, linguiste, est déjà venu 9 fois avec l'envie de questionner l'usage de ces termes.
Pour employer des mots un peu intello, c'est à ce qu'ils accèdent à un métalangage, c'est-à-dire à une réflexion sur leur propre langue. On ne parle pas évidemment de la même manière quand on est avec ses potes que quand on est avec un prof. Et si on s'adressait à un membre de l'Académie française, ce serait encore un autre registre.
Eh, vas-y, tège-moi chez moi en balle. Et un soutenu, pourriez-vous me déposer dans les plus brefs délais à mon domicile, s'il vous plaît?
C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Disséquer des mots. D'habitude, je dis des mots sans vraiment savoir d'où ils viennent ou ce que ça veut vraiment dire. Donc, apprendre l'origine des mots, ça fait plaisir.
L'objectif est de compiler 100 de mots et d'éditer ce dictionnaire l'année prochaine.
Le dictionnaire du 91, ouais. C'est un reportage de Faustine Calmel.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes, la nostalgie toujours aussi vive en Jamaïque, 40 ans après la mort de Bob Marley.